n'est pas sérieux quand on a dit ça. J'ai mis de la musique sur cette poésie de Rimbaud parce que moi, quand j'avais 17 ans, on m'obligeait à être sérieux. C'était un sale temps. Hein. C'était pas le Moyen-Âge, c'était bien plus haut que ça. Et j'ai mon fils qui a 17 ans, maintenant qu'il va avoir 18 ans. Alors c'est pour lui que j'ai fait cette chanson. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans ces bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. La ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser la sève du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif sur vos lèvres, alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous commandez des bocs, de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
C'est un grand terrain de nulle part. Avec de belles poignées d'argent. La lunette d'un microscope. Et tous ces petits êtres qui courent. Car chacun va que son destin. Petits ou grands, comme durant des siècles égyptiens. Péniblement, a porté mille fois son poids sur lui. Sous la chaleur et dans le vent, dans le soleil ou dans la nuit, voyez-vous ces êtres vivants Voyez-vous ces êtres vivants Voyez-vous ces êtres vivants Quelqu'un a inventé ce jeu. Terrible, cruel, captivant. Les maisons, les lacs, les continents. Comme un ego avec du gant. La faiblesse des tout-puissants. Comme un Lego avec du sang. La force décuplée des perdants. Comme un Lego avec des dents. Comme un Lego avec des mains. Comme un Lego. Voyez-vous tous ces humains? Danser ensemble à se donner la main. S'embrasser dans le noir à cheveux blonds. À ne pas voir demain comme ils seront. Car si la terre est ronde et qu'ils s'agrippent, au-delà c'est le vide. Assis devant le restant d'une portion de frites. Noir sidéral et quelques plats d'amibe. Les capitales sont toutes les mêmes devenues. Aux facettes d'un même miroir. Vêtus d'acier, vêtus de noir. Comme un Lego, mais sans mémoire.
Ici Radio Libertaire, 89.4 FM. Une émission, une heure avec. sommes l'émission Un verre avec. Une émission de Monique Ayoun. C'était Estelle Gottfarg, Naissance.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Libertaire au 89.4. Monique Ayoun au micro, ma première émission de Un verre avec. Alors, nous avons deux invités aujourd'hui. D'abord, une multi-artiste pluridisciplinaire qui navigue entre la comédie, l'humour, les stand-up, et qui s'appelle Mata Gabin. Bonjour Mata Gabin.
Bonjour Monique Ayoun.
Et je cherchais, quand je l'ai rencontrée, une comédienne pour mon spectacle « Histoire de mes seins ». Et elle a incarné à merveille ce rôle et nous avons pendant plusieurs années collaboré ensemble. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'inviter cette artiste qui est à la fois donc comédienne, peintre, stand-up, énormément de choses. Donc Mata Gabin, pour savoir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans votre actualité?
Déjà merci pour l'invitation, ça fait plaisir. En plus j'étais venue à Radio Libertaire il y a très longtemps, donc c'est un retour agréable. Et ce qui se passe en ce moment dans ma carrière, c'est j'ai participé à un spectacle de Eva Doumbia qui s'appelle Chasselet et autres massacres, un spectacle qui revient sur ce qu'il s'est passé avec les tirailleurs sénégalais qui n'étaient pas tous sénégalais mais qui étaient plutôt africains et ce qui s'est passé pour eux pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. J'incarne le rôle de l'autrice, c'est-à-dire d'elle-même, d'Eva Doumbia, qui interroge le public, qui s'interroge et qui a fait une sorte d'enquête. Elle est revenue sur ce passé de ces hommes-là pour savoir pourquoi et comment, aujourd'hui, on n'a pas une idée précise de ce qui leur est arrivé et pourquoi on ne les a pas honorés précisément. Et puis, j'ai aussi participé au spectacle d'une amie qui s'appelle Déborah Lévy.
Mais attendez, j'ai pas fini avec ce spectacle.
De Eva Doumbia.
Alors là,
je suis
très surprise de ce que vous me dites, parce que moi, je vous connais dans un rôle de plein d'humour. Et là, j'avais l'impression que vous êtes un peu à contre-emploi dans ce rôle de conteuse. Est-ce que je vous reconnaîtrais? Est-ce que c'est vous qui incarnez vraiment? C'est une des facettes que je ne connais pas, disons. Donc je voulais, oui.
Oui, c'est une facette que vous ne connaissez pas parce que on s'est rencontrés sur Histoire de mes seins, qui est plutôt quelque chose d'humoristique, enfin qui a un côté plutôt comédie, on va dire. Mais j'ai beaucoup participé à des projets qui étaient des projets plus.
Ah, c'est très sérieux là.
Sérieux. Oui. Un petit peu dramatique, mais en même temps, la personne Eva Doumbia a fait appel à moi parce que malgré le drama, j'arrive quand même toujours à insuffler un peu de recul, un peu de hauteur, et il y a aussi des moments d'humour et de rire dans cette conteuse que j'interprète sur Chasselet et autres massacres.
Donc c'est l'une des facettes de votre personnalité aussi. Oui. Il y a la gravité, oui. L'émotion.
Oui. Je suis toujours très proche de la tristesse finalement. On n'est pas très loin. Les artistes, on est un peu sur un fil.
Bah, le rire parfois est proche.
Le rire, c'est l'élégance pour cacher.
La politesse du désespoir.
Exactement, exactement. Donc voilà, aller chercher la gravité, c'est
donc juste vous aimez quand même les projets à la fois humoristique, mais aussi où il y a de vrais sujets, de la profondeur. D'ailleurs, votre autre projet est aussi un sujet assez grave.
Oui, c'est un sujet grave. C'est un projet sur l'autisme Asperger. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui vais aller manifester, m'engager. Bon, je signe des pétitions, je fais des choses comme ça. Mais je ne suis pas au front sur les sujets politiques ou de société. Et je mets mon énergie de combattante dans les spectacles. Et justement, là, Orteils et Solitude, le syndrome de l'asperge de Déborah Lévy, c'est l'histoire d'une maman qui montre et qui explique comment on vit de l'intérieur lorsqu'on a un enfant Asperger. On ne le sait pas lorsqu'il naît. Et tout ce combat qui se dessine entre les médecins, elle, la famille, qui lui disent « mais ça va, mais il est dans le bas de la courbe de croissance, mais sa vie n'est pas en danger. » Tout le monde minimise, on lui dit à elle de prendre des calmants, etc. Alors qu'à un moment donné, un diagnostic est posé et on comprend pourquoi cet enfant ne dort jamais, pleure tout le temps, et pourquoi on est dans un tourbillon, une tourmente et un stress. Et donc, elle a mis en scène très joliment ce spectacle avec des voix intérieures qui lui parlent, etc. Et moi, j'incarne Dieu, carrément. Excusez-moi du peu.
Ah, vous incarnez Dieu.
J'incarne Dieu dans la pièce.
Et il parle, Dieu, alors?
Et Dieu parle. Dieu lui parle.
Enfin.
Dieu parle à l'enfant. Dieu, oui, enfin Dieu
s'exprime. Parle.
Et Dieu est une femme noire qui parle.
Oh, c'est génial, ça.
C'est génial. Et j'adore ce spectacle.
Et vous êtes habillée comment ?
J'ai une grande robe noire et j'ai un foulard comme ça de couleur. J'aime beaucoup mettre un foulard de couleur d'abord parce que je trouve ça assez joli et que ça rehausse la robe noire. Et d'une et de deux parce que sinon je touche trop mes cheveux avec mes mains.
Oui, voilà, d'accord.
Donc il y a de ça aussi. Il y a aussi un côté pratique. Et puis Déborah aime ma voix et elle voulait aussi que Dieu ait cette voix qui lui plaît et elle aime ma façon de travailler. On a travaillé ensemble. Je l'avais mise en scène il y a des années dans un de mes spectacles.
D'accord.
Et maintenant c'est à son tour, elle me met en scène dans son spectacle.
Mais alors, je sais que vous dansez, que vous chantez. Là, Dieu ne danse pas, ne chante pas, non ?
Eh bien, si, Dieu fait tout. Dieu chante, Dieu danse, Dieu parle, Dieu rit, Dieu se moque, Dieu taquine,
oh, c'est vrai,
Dieu engueule, Dieu s'énerve, Dieu est en colère, Dieu est en paix. Dieu s'amuse.
On aimerait bien le connaître.
Eh bien, écoutez, venez chez moi, il est là.
Et il se joue quand, ce spectacle ?
Ce spectacle était en résidence, au Théâtre de la Girandole, 6 et 7 février, en rendu de résidence. Et puis, on reprend encore un temps de résidence en mars. Cette fois, ce sera à Arcueil, on m'a dit. Et puis, dans l'année qui arrive, on va sûrement trouver un théâtre. Elle se bat et elle fait tout pour trouver un théâtre et nous permettre de jouer de façon pérenne.
Et c'est accessible à tout le monde, même si on ne s'intéresse pas au sujet. Par exemple, ce n'est pas forcément un sujet que moi j'irai voir. Est-ce que ça intéresse tout le monde ?
Je pense que oui, parce que même si nous-mêmes, on n'est pas touchés par le sujet du syndrome Asperger, on a dans nos familles, dans nos amis, des gens qui peuvent être touchés et on peut mieux les comprendre. Moi, j'ai par exemple deux amis autre que Déborah, qui ont des enfants autistes, et je ne comprenais pas très bien. Et là, d'avoir fréquenté Déborah et d'avoir compris ce qu'elle explique dans son spectacle, m'aide à avoir une meilleure compréhension des enfants de mes amis. Donc,
très bien. Ben, j'apprends plein de choses aujourd'hui. Je pensais connaître Mata Gabin, mais je découvre d'autres facettes. C'est incroyable, c'est très riche. Elle est aussi peintre, d'ailleurs. Et elle vient de faire une exposition.
Exactement, oui. J'ai exposé pour la première fois en deux parties, en octobre et en janvier, mais j'ai exposé pour la première fois. Je peins depuis très longtemps, en fait. Je peins depuis que je suis enfant. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, j'ai habité en banlieue parisienne, à Rosny-sous-Bois, et j'ai découvert que les Parisiens intramuros ne viennent pas en banlieue. Et j'avais beaucoup de temps devant moi et j'ai commencé à nouveau à peindre sur des plaques de mélaminé à l'acrylique. Et puis voilà, j'ai peint, j'en avais plein et j'en ai beaucoup donné, beaucoup offert aux amis que j'avais autour de moi. C'était une façon plus simple, quand il y a un anniversaire, un apéro, d'arriver avec quelque chose, j'offrais un tableau. Et puis j'en ai encore peint beaucoup pendant le confinement. Et là, j'habite.
Il fallait absolument faire une expo.
Et j'en avais trop, tout était dans ma chambre, je croulais sous les tableaux. J'ai fait une expo, d'aucuns en ont acheté, j'en ai vendu, j'en ai aussi donné aux gens qui m'ont beaucoup aidé. Il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé pour l'expo, j'ai fait des petits cadeaux. Et donc, oui, je continue de peindre et il y a deux autres expos à venir bientôt.
Bon, alors, dans cette émission, on parle de la naissance de la vocation, on parle de l'enfance, des premières fois. Alors, Mata, d'abord, où êtes-vous née et de quoi rêviez-vous quand vous étiez petite? On va faire les deux. Où êtes-vous née?
Moi, je suis née à la frontière du Libéria et de la Côte d'Ivoire, dans un petit village qui s'appelle Toulépleu, qui est dans la région de Mans. C'est la région où vivent les Yacouba. Et c'est en Afrique de l'Ouest. Et je suis née un 29 février. Date qui arrive que tous les 4 ans, en 1972, ah oui. Donc j'ai bientôt 53 ans.
Donc vous
ne
fêtez pas tous les ans votre anniversaire?
Je fête mon anniversaire une fois tous les 4 ans, et quand je le fête, je fais une énorme fiesta, parce que j'ai attendu 3 ans pour
pouvoir
le fêter.
J'espère qu'on viendra la prochaine fois.
Oui, le prochain,
c'est bientôt là.
C'est en 2028.
Oh non, mais il faut attendre.
Eh ben oui, c'est l'histoire de ma vie, il faut être patient. Et je pense que ça m'a donné une forme de patience, d'ailleurs.
Ah oui?
Je pense que d'être née à une date assez particulière, je suis assez patiente. Je m'impatiente peu, je suis capable de voir la vie comme un marathon. Et oui, ça m'a rendue patiente.
Vous avez de la chance.
Je remercie l'univers pour ça. et donc oui, je suis née là-bas d'une maman guinéo-libérienne conteuse et d'un papa martiniquais saxophoniste.
Deux artistes.
Mes parents biologiques sont deux artistes et mes parents que j'appelle d'élevage qui m'ont éduqué et qui ont pris soin de moi parce que ma mère biologique était trop jeune et mon père préférait le saxo plutôt que de s'occuper de sa fille. Ces parents-là sont corses et martiniquais, c'est-à-dire la sœur de mon père et son mari corse. Donc j'ai fait une petite enfance en Corse. Alors c'est assez.
Ah oui, c'est très mélangé.
C'est mélangé.
Oui.
Voilà.
Et donc, vous avez grandi en Corse?
J'ai grandi.
Jusqu'à l'âge de...
Jusqu'à la sixième, jusqu'à, je sais pas quel âge on a quand on rentre en sixième.
Oui.
Bon, bref. Et parce que les petites classes, je les ai faites en Corse. Pour moi, l'enfance, c'est le maquis, c'est les châtaigniers, c'est la forêt, etc. Et ensuite, quand l'école commençait à être plus sérieuse et plus compliquée, là, on s'est établi en Côte d'Ivoire, à Abidjan, de façon...
Et je sais que dans votre enfance, quand on vous disait... tu viens d'où? Vous aimiez pas trop ça.
Non.
Tu viens d'où?
Je disais, quand on me dit t'es d'où, je réponds je suis douce.
Et puis vous n'aimiez pas aussi les questions un peu bizarres des copines?
Oui, puis des gamins.
Des questions qui... parce que comme vous êtes noire, alors ouais. On vous dit tout de suite des questions quel genre?
Ils me demandaient
pour les cheveux,
par exemple, c'est comment tes cheveux? Est-ce que c'est de la laine? Et je répondais non, c'est du nuage carbonique. Si tu touches trop, ça va, tu vas mourir. Ou bien il me demandait comment on descendait de l'avion quand on atterrissait en Côte d'Ivoire. Je disais il y a des girafes qui sont là sur le tarmac et puis on descend en rappel comme des pompiers le long de leur cou. Je m'amusais, je me moquais.
Ça vous blessait pas?
Ça me blessait, mais au lieu de rester simplement blessée, je trouvais l'humour pour en sortir.
On reprend tout à l'heure, on va faire une pause musicale.
Nous sommes sur Radio Libertaire, donc 89.4, une émission de Monica Youn, un verre avec.
Pourquoi il arrête? Pourquoi il arrête?
Parce que Monsieur Scherrer est arrivé.
Ah, Scherrer est arrivé?
Bonjour.
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 Vous nous a planté.
Non.
Albert nous a planté.
Tu vois, comme quoi?
Comme quoi, c'est toi qui es là et c'est pas Albert.
Tu vois, moi, j'ai tout fait pour être là.
Ouais, vous êtes formidable.
Tout fait pour être là, formidable.
Une parole est une parole.
Et Albert a dit oui et il nous a planté.
Ah, c'est pas cool, ça.
C'est pas cool. Donc, du coup, j'interview le matin.
Ouais, c'est pas cool, ça. Tu savais le nombre de trucs, là, pour arriver entre le cambriolage, le match.
Enfin, du fond de son lit. Un soutien-gorge sur une chaise, une paire de pas sur un tapis. Nous les coureurs impénitents, nous les dons Juju, nous les dons Juan. Mais chaque fois que l'on renifle la piste fraîche du jupon, pour un baiser, pour une gifle, sans hésiter, nous repartons. La main frôleuse et l'œil luisant, nous les dons Juju, nous les dons Juan. Le seul problème qu'on se pose, c'est de séparer en deux portions
55 kilos de chair rose, de 55 grammes de nylon. C'est pas toujours un jeu d'enfant, pour un don Juju, pour un don Juan. Le mannequin, la manucure, la dactylo, l'hôtesse de l'air, tout est bon pour notre pâture. Que le fruit soit mûr ou qu'il soit vert, faut qu'on y croque avec le temps. Nous les dons Juju, nous les dons, dons Juan. Mais il arrive que le cœur s'accroche aux épines d'une jolie fleur, ou qu'elle nous mette dans sa poche, sous son mouchoir trempé de pleurs. C'est le danger le plus fréquent, pour un don Juju, pour un don Juan. Nous les coureurs du Tour de Taille, nous les gros croqueurs de souris, il faut alors livrer bataille ou bien marcher vers la mairie au bras d'une belle maman. Pauvre don Juju, pauvre don Juan. Nous tamiserons les lumières, même quand la mort viendra sonner, et nous dirons notre prière sur un chapelet de grains de beauté, en attendant le jugement. Nous les dons Juju, nous les dons Juan.
C'était Claude Nougaro, les dons Juan. Vous pourrez voir donc Tribu Nougaro au studio Héberto, trois artistes de première grandeur, donc dont le chanteur Laurent Malo a une tessiture de voix qui se rapproche très très fort de Claude Nougaro. Et il nous chante ses tubes et des chansons aussi qui sont tout à fait, comment dirais-je, tout à fait inédites.
Quatre, un, deux, trois, quatre, cinq, restez à l'autre jour. Je crois que c'est cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, ouais.
Je suis... Voilà, je suis avec Mata Gabin et nous parlions de son enfance.
Tout à fait.
Et comment vous avez eu envie de devenir comédienne alors ?
Moi, ça s'est passé de deux façons différentes. C'est-à-dire que d'abord, j'habitais un quartier en Côte d'Ivoire qui s'appelle la Cité des Arts. Et je passais tous les jours devant le conservatoire des comédiens. Et il y avait une grande baie vitrée et je voyais les gens danser, jouer. Je les voyais et donc ça me donnait envie. Et puis, j'ai aussi vu le film El Silencio dans lequel joue Béatrice Dalle. Et ça m'a bouleversée et j'ai dit à mes parents, je veux faire ça moi aussi. Parce qu'il y avait une scène où elle se transformait en sorcière et elle marchait au plafond. Et je trouvais ça extraordinaire. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de marcher au plafond comme ça. J'ai envie de faire des choses dingues. Et donc, la vocation est venue par ces deux biais-là. L'envie d'être comédienne, faire du cinéma, faire de l'écran, jouer devant l'écran. Et aussi être sur les planches pour partager comme ça directement une émotion avec le public.
Et dans cette émission, vous êtes aussi chroniqueuse.
Exactement, parce que j'aime toucher à tout.
Et donc, nous avons la présence de Denis Scherrer. Bonjour, qui vient d'arriver dans le studio. Et donc, Denis Scherrer, qui a un spectacle qui s'appelle « Aimons-nous les uns loin des autres ».
C'est ça.
Et justement, Mata a vu ce spectacle et on aimerait savoir ce qu'elle a ressenti maintenant.
Ah d'accord, si, j'enchaîne
si elle veut
direct.
Bien enchaîner direct, okay. Oui.
Ok,
direct, je comme ça.
Direct, ah, comme si. Ça. Sans préparation.
Allez, allez. Alors, oui, chère Mona, chers auditeurs de Radio Libertaire, c'est la chronique en gabini dans Un verre avec. Et aujourd'hui, nous recevons Denis Scherrer. Bonjour à tous, bonjour à vous.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. J'ai vu Aimez-vous loin, aimez-vous les uns
aimons-nous.
Loin des autres.
Aimons-nous.
C'est ça ?
Aimons-nous.
C'est
aimons-nous.
Ah, aimons-nous. Aimons-nous. Ah, aimons-nous les uns loin des autres, de et avec vous-même. Alors moi, ce soir-là, j'avoue que j'étais pas bien assise. J'avais une tendinite qui me tuait le genou gauche.
Aïe, 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 aïe.
Mais pourtant, dès les premières notes de musique, alors là, j'ai oublié mon mal et j'ai plongé dans un spectacle aussi inattendu qu'original. Le pianiste vous emporte, l'acteur vous régale. Il y a un rappeur aussi qui vient et qui vous fait vibrer. Et ça, c'est pas banal. Et tous ces artistes, messieurs, dames, eh ben, c'est le même. C'est Denis Scherrer aux mille visages. Wow. Je me demande, mais comment vous avez fait pour faire rire de surcroît poétiquement avec les mots comme Covid, comme patient zéro. Vous nous avez amusés, vous nous avez fait voyager back in the days dans la nostalgie wow. des bons moments wow. du confinement. Parce que oui, il y en a eu. Et on était en train de l'oublier. Mais heureusement, vous étiez là pour nous faire rimer Corona avec moment de joie. On a tous vécu ces deux parenthèses insolites. Certains s'en sont remis lentement, d'autres plus vite. Il y a des humoristes, par exemple, qui ont fait du stand-up sur cette crise. Mais jamais encore, je n'avais entendu parler de cette époque en versification. Je dis chapeau, l'artiste.
Merci.
Ce spectacle est un vrai baume de bien-être. Et cette œuvre est très propre. Hein. Il y a beaucoup de gel hydroalcoolique qui coule sur le plateau, sur le piano et sur les mains du pianiste, du musicien. Vous avez su avec brio masquer hein, ma grisaille du jour, faire sourire ma bouche qui ne s'était émue et entrouverte ce jour-là que devant un peu de foie gras et sa confiture d'oignon, puis un jus de pomme bretonne. Bon. Les commentaires, pour le coup, sont positifs et ça, ça fait plaisir. Il pleuve sur Billets Réduc et cela atteste d'un impact unique. Vous devriez être cité par l'OMS. Il devrait dire « Denis Scherrer a créé un spectacle d'utilité publique pour résumer la pandémie. Personne ne l'a fait mieux que lui. » Fin de transmission. Enfin, pardon, de citation. C'est pourquoi, pour moi, l'artiste est un médecin de l'âme. Face au virus, il transforme l'épidémie en slam, faisant des symptômes, des psaumes, un rap à la Nekfeu qui chante le couvre-feu. La contamination et la propagation des rires est virale et immédiate. Aucun geste barrière entre le public et lui. Pas de distance sociale, mais plutôt une allégresse virale qui s'emparera de vous. Un dépistage jovial entre votre vécu et son récit deviendra votre urgence non sanitaire, mais étonnamment salutaire. Contre le foyer d'infection et les fermetures des frontières, Denis Scherrer propose l'ouverture d'esprit, l'hygiène de la réflexion, tout en mots choisis, tout en poésie wow, et en chanson. Ah, pas de pénurie, pas de belles images. Et c'est les voies respiratoires dégagées à force d'avoir rigolé que vous rentrerez chez vous en hilarité collective si vous êtes accompagné. La période d'incubation peut être longue, moi j'en ris encore. Après votre télétravail, je vous conseille de ne pas rester chez vous. Il n'y a plus d'interdiction. Prenez un billet sans besoin d'attestation et retrouvez-vous au théâtre maintenant que c'est partout des zones de déplacement libres. Ouais. Allez-y à une quinzaine ou une petite quarantaine pour découvrir ce petit bijou que Denis Scherrer a fabriqué pour nous, pour notre wow. rétablissement. Et il nous offre un ravissement. Merci.
Bravo, wow. Mata, bravo, Mata. Oh, oh là là.
J'ai bien fait de venir.
Vous voyez, Denis, ce que vous avez raté.
Je ne sais même plus quoi dire.
Alors, non, bah, vous avez suis... écrit et joué ce texte
mais
savoureux.
Oui.
Et j'aurais voulu savoir pourquoi, pourquoi en vert. Mais parce qu'alors, il faut, vous ne l'avez pas remarqué, Mata, mais tout est en vert.
Ah, ben oui, je l'ai remarqué, je l'ai
ça
dit.
Ça a été dit, ça a été. Avant oui, ça, Mona, je me permets de remercier beaucoup
Mata.
Mata, parce que ce que je viens d'entendre, d'abord, c'est très, extrêmement touchant quand on a fait une création,
ouais.
d'avoir un retour pareil.
C'est vrai.
Ah, je dirais, Ah, si il y en avait beaucoup comme vous, ça serait bien.
Ah, mais il y en a beaucoup déjà, vous avez plein de bonnes critiques.
Oui, bien sûr, non, je n'ai pas à me plaindre sur la critique.
Et la salle est pleine.
Quand je dis s'il pouvait y avoir beaucoup de personnes comme vous, je pense à tous ceux qui ne veulent pas entendre et qui ne veulent pas venir voir le spectacle, surtout. Mmh. Et je ne vais pas m'attarder sur du négatif, mais en entendant ça, je pense que vous avez non seulement la sensibilité, mais c'est lumineux ce que vous venez de dire, et c'est surtout une récompense par rapport à l'écriture d'un spectacle qui est totalement une création. Mmh. On part pas d'un roman, on part pas d'un film, on part pas d'une bio comme la 90% des spectacles en ce moment, on part d'une vraie création, et donc c'est une récompense d'entendre ce que vous venez de dire. Merci. Et je vous en remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Et les autres, et bien les autres, ils ont qu'à être
moins qui viennent. Mais moi j'ai vu la salle pleine.
Il y en a beaucoup.
Ça plaît beaucoup,
De personnes qui sont là, et ça me fait plaisir, vraiment, vraiment. Non.
Bon, parce que c'est une comédie cocasse et par moments très émouvante, où moi j'ai pleuré à un moment donné. Là, quand vous avez parlé, finalement, on a vécu une période complètement délirante où il s'est passé des choses atroces quand même. Quand vous parlez du moment de l'EHPAD. C'est un moment qui est complètement bouleversant. C'est bouleversant.
C'est bouleversant.
Et on se dit, ça aurait pas dû exister, quoi, que ça.
Ça a existé et ça fait partie de la panoplie en fait qu'on peut avoir, de tous les événements qu'on a eu pendant cette période. Donc forcément, il y a des moments plus douloureux. Et là, je pouvais pas passer à côté de ça parce qu'il y a eu trop de témoignages de proches d'ailleurs qui ont pas pu revoir leurs parents pendant cette période-là.
Oui.
Donc forcément, ce passage-là est traité d'une façon plus pudique, moins drôle.
Très touchant, mais j'ai été touché.
Il le fallait. Après, comme vous l'avez dit, la versification fait que on part dans des choses musicales
un univers poétique et musical.
Oui, parce que je pense que d'abord j'ai toujours écrit de la poésie humoristique. Ça a été mon parcours souvent d'écrire des poèmes humoristiques. J'insiste sur l'humour parce que ça, mais avec un thème grave. Et comme j'ai pu écrire aussi une pièce, alors cette fois en prose, qui s'appelait Les Nœuds aux Mouchoirs,
et
qui
était Les Nœuds
aux Mouchoirs, et qui parlait d'une femme, en l'occurrence une période de la vie de ma mère, atteinte d'Alzheimer, qui a été jouée par Anémone.
Et c'est sujet dernière, lourd, hein,
sujet
oui.
lourd. Sujet lourd.
Mais c'était pas traité en comédie, ça.
Si.
Il faut le faire.
Et c'était léger. Il y avait des moments, évidemment, des moments plus lourds, des moments bouleversants, mais l'ensemble était une comédie quand même, malgré tout.
C'est une prouesse de pouvoir parler d'un sujet pareil.
C'est ce que j'aime,
que ce soit. C'est formidable.
C'est ce qui vraiment me branche.
Vous avez aimé.
C'est même en tant que spectateur ou téléspectateur ou cinéphile, c'est de voir des thèmes lourds.
Ouais.
Traité de façon
c'est vrai.
Plus légère.
C'est ce qu'on aimerait toujours.
C'est-à-dire ne pas être dans le mélo. Et je pense que c'est encore plus touchant souvent. Mais il y a plein d'exemples de films.
Et le message passe mieux,
je trouve.
Souvent, quand on va dans le chemin de l'humour.
Alors, il faut dire que vous êtes servi par... Vous êtes un peu clown, vous avez des mimiques là, vous êtes un clown, quoi. Vous avez fait un stage de clown ou quoi?
J'aime le mélange des genres.
C'est drôle, non?
Mille visages.
J'aime le mélange des genres, et c'est vrai que dans ce spectacle-là, j'ai essayé de mettre tout ce que j'aimais, tout ce qui me correspondait, tout ce dont j'avais envie, c'est-à-dire mélanger la musique. Et j'aime ça aussi quand je vais voir un spectacle, c'est être surpris par le mélange des genres. Et on peut très bien avoir un spectacle complet, ce qu'on appelle le spectacle complet, au théâtre, c'est-à-dire avoir de la danse à un moment donné, avoir du texte, avoir du visuel, parce que je déteste les spectacles bavards à 100%,
bavard
pendant une heure et demie. C'est que du mot, j'en peux plus à un moment donné. J'aime bien les aérations, j'aime bien les respirations. Et dans le spectacle, j'ai voulu mettre vraiment, c'est pour ça que je suis au piano, j'ai voulu mettre du texte, bien sûr, puisque c'est quand même, ça part quand même d'un recueil que j'ai sorti, enfin qu'un éditeur a sorti il y a 3 ans. Ça part de ces textes-là, mais après, l'adaptation, elle est faite elle est aérée. On a, vous l'avez dit, on a du slam, on a du, du visuel. La, la fille dans sa chambre de bonne qui se pomponne. c'est très visuel.
Enfin, c'est vous.
C'est moi, bien sûr.
Enfin, elle joue la fille.
Ah, bah oui,
il joue tous les rôles. Hein.
Bah oui, bah oui.
Quand je dis la fille, c'est parce que j'imagine la fille que je joue.
En fait, vous la jouez très bien.
Merci, mais.
On voit tous les personnages.
On fait tous les personnages.
C'est un choix, c'est un choix.
Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant le Covid? Parce que vous dites que vous l'avez écrit pendant le Covid. Qu'est-ce que vous,
qu'est-ce que
vous faisiez pendant le Covid? Vous étiez chez vous, donc...
Ouais, j'étais chez moi, ouais.
Comme tout le monde. Ouais, mais vous étiez malheureux, vous étiez bien.
Non, j'étais pas malheureux parce que ça... ça en fait...
vous étiez amoureux?
Non, c'est, pas, c'est encore autre chose. Mais là, c'est la vie, un peu la vie privée, mais en fait, j'ai...
J'adore.
Ça va paraître bizarre vu mon âge, mais je pouponnais.
Ah, trop bien!
Vous aviez un bébé pendant le Covid? Vous avez accouché pendant le Covid?
J'étais enceinte avant le Covid.
Coupe de Nichéret est une femme!
Voilà, je m'appelle Caroline, je suis une femme, j'étais enceinte avant le Covid. J'ai accouché d'un...
Vous avez accouché?
Ouais, oui. Non, en fait, j'ai... Ouais, j'ai
vous avez j'ai un deux, bébé?
Bon, j'ai un deuxième fils qui est né...
Il est né pendant le
qui
Covid?
Qui est né pendant le Covid. Voilà, donc ils ont, j'ai un grand garçon et un petit garçon.
Et donc, il vous a pas empêché de dormir la nuit puisque vous
pouvez écrire forcément. Non, mais si, forcément, bien sûr, puisqu'il avait 6 mois et donc forcément les biberons à 3h du matin.
À quel moment vous avez écrit ce texte?
À tous les moments, Mona, tous les moments de la journée, de la nuit.
Ah ouais, vous étiez tout le temps en train de noter ce qui se passait, les trucs délirants qui se passaient.
Oui, parce que forcément, avec des biberons toutes les 3 heures, on a des périodes d'écriture. Des périodes de tétine.
Wow. Ah oui, donc, d'accord. Et vous avez obéi aux prescriptions, là, ne sortez pas, etc. Est-ce que vous transgressiez pas?
Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je faisais le tour du jardin.
Oh oui, d'accord.
Ouais.
Bon, ben, Denis Charrière, maintenant, vous allez nous raconter votre vie en détail. Alors, on va aller dans la vie privée. Alors, quand vous étiez petit... Quand vous étiez petit, est-ce que vous saviez vraiment ce que vous vouliez? Déjà, à 9 ans, vous avez découvert la scène, c'est ça?
Exactement. Je savais ce que je voulais parce que je savais surtout ce que je voulais plus. Oh. Et je voulais plus être déçu. Alors, j'ai donné dans la déception encore longtemps après. Ah. Mais je voulais faire vraiment ce que j'avais envie de faire. Et quand j'ai lu une scène du médecin malgré lui à 9 ans et que j'ai trouvé ça génial, le petit bouquin Les connaissances des classiques là, avec cette couverture, ces personnages avec les collerettes blanches, le théâtre, et que la maîtresse m'a dit tu apprends ça et puis on va la faire cette scène, j'ai dit mais ouais, génial. Et puis malheureusement elle a pas tenu parole.
Oh.
Et oui, mais ça chez les profs, il y en a des bien, mais enfin il y en a des moins bien aussi. Mmh. Et donc elle m'a planté ouais. Et elle a dit, je sais plus pourquoi, elle devait être de mauvaise humeur le lundi matin. Elle fait, non, on va pas la faire, on va changer. Et puis de toute façon, on va pas faire cette scène là. Et moi je suis rentré, j'avais 9 ans, en pleurs le midi chez ma mère. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe, t'es tombé. Je fais, non, je raconte. Et elle me dit, si c'est ça, je vais t'inscrire au cours d'art dramatique.
Merveilleuse
jeudi
maman.
D'après, parce que je crois que c'était jeudi, à l'époque encore, le jour de congé, le jeudi d'après, j'étais au cours d'art dramatique. Et je n'ai pas débandé depuis. C'est pardon pour les prêts.
Elle n'a pas débandé.
C'est le matin encore. C'est,
l'enfant est né au Covid.
Mais disons que je n'ai pas...
Oui, on entend bien.
Elle est née au Covid.
Je n'ai pas débordé. Je suis resté d'abord au
cours. C'est extraordinaire, ensuite, là, c'est pour ça que...
Ensuite, les cours, ça a été, ça a été des cours plus professionnels. Mmh. Et puis après, ça a été carrément les cabarets, les cafétéries.
Alors là,
et ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui, voilà.
C'est une question à tous les deux, parce que j'ai pas eu la possibilité de terminer avec Mata. C'est une question à tous les deux sur l'enfance.
Oui.
Est-ce que vous avez eu une enfance heureuse? Et quel genre de petit garçon ou de petite fille étiez-vous? Turbulent, effacé, timide? Tu commences, Mata.
Ok. Moi, j'ai eu une enfance mi-figue, mi-raisin. Il y avait des choses très belles, parce que la Corse, la nature, etc. Et puis, il y avait des choses assez atroces, parce que enlevée à ma mère biologique, donc avec un questionnement constant, pourquoi moi, je ne vis pas avec ma vraie mère alors que les autres ont ça. Mais je dirais que cette enfance mi-figue, mi-raisin m'a permis d'avoir une force dans la vie, parce que j'ai toujours eu la sensation d'avoir quatre parents. Je me sens très stable. Il y a peu de choses qui viennent me déstabiliser, parce que j'ai eu de l'amour des deux côtés, de ces parents qui m'ont adopté, kidnappé, appelons ça comme on veut, mais en tout cas élevé, éduqué et aimé. Ouais. Et puis aussi de ce côté de parents biologiques qui m'ont donné ce qu'ils sont, qui m'ont donné mon ADN, qui m'ont donné cette force physique, ce corps que j'ai et cet amour de l'art, puisque ma mère est conteuse et mon père est saxophoniste du côté biologique. Donc c'est une enfance vraiment... Il y a autant 50-50, quoi. Il y a autant de peine que de bon côté. Mais... Et j'ai appris à regarder beaucoup plus le bon côté et à me dire que les choses qui arrivent sont des cadeaux. Et puis, ça m'a rendue un peu fonceuse.
Oui, mais...
Un peu dans ma bulle aussi, quand même. J'ai toujours... créer mon monde.
Fou, oui. Mais j'arrive pas à vous imaginer quelle petite fille, c'est-à-dire extravertie déjà.
Ça dépendait des moments. Bavarde beaucoup à l'école, etc. Je faisais des spectacles devant mes parents, par exemple. Je montais des spectacles avec les amis du village en Corse, en bas. Je leur disais, toi tu seras le prince, toi t'es la princesse, toi t'es machin, moi je suis la sorcière et tout. Je faisais des mises en scène. Je jouais devant eux. Et puis des fois, j'étais dans ma bulle aussi, à ne calculer personne. J'ai toujours été différente.
D'accord.
Un côté vers
alors
les autres,
Denis,
et un côté perso.
Ça rejoint ce que vient de dire Mata, c'est-à-dire...
Ah bon vous avez passé votre enfance ensemble.
Oui, mais je...
Finalement, donc vous l'avez bien fait, vous avez été en même temps.
C'est ça, en fait, on se connaît très bien. Je vous présente mon épouse, en fait. Non, alors, en fait, non, dans la création, j'entends des choses qui me font penser forcément à ce que j'ai vécu avec mon frère, à savoir les faire des spectacles pour
la famille.
Ça, improviser pour la famille, ou même les copains, puisque nous, on avait des ce qu'on appelait le circus jeu Bobino. On faisait ça dans un appartement parce qu'on était on vivait en HLM à l'époque et c'était donc dans une cité où on invitait les copains, on leur faisait des sketchs.
Wow.
On les faisait payer 50 centimes. On faisait une cagnotte pour acheter des bonbons,
des bonbons
qu'on offrait et tout. Et c'était vraiment et tous les mômes venaient.
C'est génial.
Alors on était trois ou quatre potes et on faisait ça. Alors il y avait des mimes, il y avait des chansons, il y avait tout un mélange, un peu cabaret. Et on avait quoi, sept ans, quoi, 8 ans. Ça s'appelait le Circus Joe Bobino. C'était un moment. Donc ça rejoint la création, elle démarre très tôt. Puis surtout l'envie du partage et tout ça. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Pour avoir. Alors au niveau familial, l'amour, oui, moi j'ai eu une enfance très heureuse. Alors là-dessus, beaucoup d'amour, de parents qui s'aimaient et qui avaient tous les deux pris des cours de amateurs, des cours d'amour, des cours d'art dramatique, qui ont fait du théâtre amateur et qui finalement ne sont jamais passés professionnels parce qu'à l'époque, je pense que les parents, la société était différente, l'éducation était différente et ma mère qui faisait de la danse, qui avait tout pour être danseuse, comédienne et tout, n'a jamais eu l'aval de son père, n'a jamais eu l'autorisation de son père, elle a même eu un refus de sa part de faire ce métier-là.
Donc je pense qu'il y avait est-ce qu'ils vous ont encouragé alors?
Bien sûr. Quand on leur a dit et c'est justement pour ça
qu'ils vous ont encouragé.
Ils étaient très modernes et je les en remercie parce qu'en fait quand on leur a dit, quand ils ont appris plutôt qu'on était virés du lycée le même jour, mon frère et moi.
Ah oui, c'est vrai.
C'est pas forcément très glorieux et c'est pour des parents d'avoir la lettre comme ça, pour absentéisme, vos enfants, ils nous ont dit maintenant foncez, faites ce qui vous plaît, faites le bien.
Oh, mais c'est des parents extraordinaires, ça.
Donc je les en remercie. Wow. Je pense qu'il y a.
Mais
y a
financièrement, ils pouvaient assurer.
Nous sommes sur Radio Libertaire, 89.4 FM, l'émission Un verre avec.
Très bien.
Et bon, et donc. C'est énorme. Non, financièrement, non, ils nous ont aidés, mais pas plus que ça. Mais en tout cas, aidés
psychologiquement déjà.
Ouais, dans la force de dire, mais faites-le bien.
C'est extraordinaire déjà.
C'est génial.
En général, les parents disent, mais fais d'abord des études.
Fais un métier normal, blablabla. Bla, bla.
Ouais, ouais.
Mais vous aviez quand même aussi un côté pragmatique parce que vos spectacles, vous faisiez payer un petit quelque chose pour avoir les bonbons.
Ouais.
Ça, c'est génial. Ouais. C'est-à-dire que déjà, il y avait ce...
Il y avait ce côté participation.
Ah, exactement, ouais, ouais. Ah, c'est top, ça, ouais.
Mais non, c'est important, Là, le début est important. Comment parce qu'il y a tellement de frustration de certains que leurs parents, non, tu vas être notaire et puis tu verras après. Bon, il faut des notaires, mais enfin, il faut aussi des artistes.
Je dois faire une petite parenthèse parce que j'avais des coups de cœur théâtraux. Alors, et bien sûr, j'ai beaucoup aimons-nous les uns loin des autres au théâtre de l'île Saint-Louis, dont Malta a très, très bien parlé tout à l'heure. Et alors, je vais vous surprendre, mais j'ai apprécié quelque chose de complètement différent, de la servitude volontaire au théâtre Essaillon, d'après le discours éponyme d'Étienne de la Boétie, joué par le comédien Jean-Paul Faré. Alors, cette adaptation a été également écrite après l'épisode du Covid, comme quoi ça a inspiré beaucoup de monde, et du confinement, avec la prise de conscience que la dictature est toujours à nos portes. Mmh. Il suffit d'une crise, d'un moment de faiblesse, de peur, et nous sommes prêts à obéir à un dictateur. Rares sont ceux qui s'insurgent, on a pu le voir, et qui se rebellent. Le texte de la Boétie, donc ce célèbre discours sur la servitude volontaire, écrit en 1548, est toujours actuel et très étonnant. Donc c'est au théâtre et salon, Boileau fait l'amer constat que la tyrannie, depuis toujours, plane comme une ombre sur le destin des peuples. Et il pose cette question essentielle, n'y aurait-il pas dans tout peuple, et donc en chacun de nous, une forme de servitude volontaire? Mata et Denis, je vous pose la question, est-ce qu'on n'a pas en chacun de nous une forme de servitude volontaire, qu'on accepte tout? On accepte les dictats d'une société.
Moi, je dirais que là, en l'occurrence, on a refusé.
Étant
artiste. Mais
oui, bon. Je pense que c'est une question très large parce qu'en fait, moi, je suis perpétuel. Je vais répondre pour moi.
Je suis
perpétuellement en colère.
Révolté, vous êtes un révolté.
T'es aigri, t'es en colère, mais non, je suis juste
révolté.
Je suis juste révolté, mais pas seulement par. C'est une grande question, hein, Mona. Ça, c'est pas.
Vous pouvez le dire là, à Radio Libertaire. Oui, vous pouvez y aller.
Non, mais c'est pas que je me bride ou quoi que ce soit. C'est que c'est très large. Comme c'est pas seulement. Moi, c'est dans le quotidien que c'est dans n'importe quelle scène du du quotidien. Ça va au-delà. Là, vous parliez de dictature. Du pouvoir plutôt, mais moi ça va au-delà, c'est plus dans le comportement humain, et c'est d'ailleurs ce que je traite surtout dans le spectacle. C'est pas tellement un spectacle sur le Covid, c'est un spectacle surtout sur l'amour et le confinement et le comportement, humain pendant le confinement. C'est plus ça qui m'a branché. Et là, sur par rapport à votre question, moi, je suis en colère tous les jours par rapport au comportement humain et au fait d'accepter tout, d'être privé de liberté tous les jours un peu plus, effectivement. Mais ça rejoint pas seulement. C'est à tout niveau, au niveau des municipalités, au niveau du déplacement, au niveau même des loisirs, etc. C'est au niveau de la liberté de penser, au niveau du pour moi on est de plus en plus dans le faites pas ci, faites pas ça.
De plus en plus aujourd'hui.
Oui, bien sûr, partez à telle heure, faites attention à ça, couvrez-vous, descendez à tel endroit, ne venez pas à tel moment, ne faites ci, faites
mangez
ça,
cinq fruits
ne
et
prenez
légumes.
Pas ça, ne prenez pas faites du covoi, mais foutez-vous la paix à un moment donné, quoi. Laissez-nous un peu, mais et comme tout le monde accepte, effectivement, on est dans une logique de. Et je dis pas qu'on est en dictature, parce que c'est pas vrai. Il y a des pays où il y a une dictature. On n'est pas en dictature en France. C'est pas vrai de dire ça. Par contre, on a de moins en moins de liberté. Enfin, c'est évident. Je veux dire, moi, je j'ose plus prendre une voiture pour venir dans Paris. La nuit, pour rentrer, c'est quand on est au théâtre et qu'on va dîner, c'est un peu compliqué, quoi.
Et c'est plus difficile d'habiter loin de Paris.
Voilà, encore une injustice. Pourquoi j'ai habité loin de Paris? Parce que j'avais pas les moyens d'aller à Paris.
C'est à une heure de Paris.
Ouais. Au départ, c'était quand même un problème financier.
Bah oui.
Donc, alors, on va loin, puis après, on nous dit, faut pas, vous, le banlieusard, faut pas prendre les quais, on les ferme. Donc faut pas prendre non plus les transports parce qu'après une heure, il y a plein de gens qui reviennent plus à Paris comme ça. Donc bah il y a plein de personnes qui... Moi je discutais avec des vieux là qui habitent Noisy-le-Sec. Quand je dis vieux, c'est des personnes de 60
bref, des jeunes qui sont jeunes depuis longtemps.
Des 70 ans quoi. Ouais, qui peuvent plus venir, ils venaient 4 fois au spectacle par semaine, ils me disaient on a plus envie.
Mais oui, il y a plein de gens qui reviennent plus à Paris au théâtre quoi.
Bon, enfin bref, c'est...
Et Mata, vous en pensez quoi, vous ?
Oh, moi, je...
Vous habitez aussi loin de Paris ?
Moi, j'ai déménagé pour des raisons économiques, parce que, artiste, femme, seule, etc. Après, oui, je suis aussi... Je trouve qu'on marche sur les épaules aussi et que le civisme se perd. Moi, ce qui m'embête, c'est la façon dont l'humain lui-même oublie d'être un humain et ce qui se passe devant nous et on passe à côté des gens dans le métro en détresse et on passe à côté, etc. Et on devient un peu une caricature de work people, tac, 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 tout pour le boulot, etc. Donc moi, j'aime prendre du recul, prendre mon temps, couper la télé, ne pas écouter, être dans une bulle poétique, artistique, pour ne pas trop souffrir, ne pas tout le temps être
pour
énervé,
pour me protéger.
Mais j'aime bien aussi insuffler aux gens le plus de joie possible, parce que c'est de plus en plus dur, c'est vrai, c'est de plus en plus difficile.
Je suis complètement d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, l'humain, en prend un coup. On parle vraiment au-delà des pouvoirs. Je trouve que l'humain en prend un coup. Et dans le mauvais sens. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces bulles et d'avoir ce partage, en fait, pour rééquilibrer un peu le manque d'humanité qu'on peut avoir dans une société comme ça.
Mata et Denis, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai juste une question sur votre façon de travailler.
Oui.
À tous les deux, hein. Quand vous butez, parce que vous êtes auteurs tous les deux, quand vous butez sur l'écriture d'un de vos textes, hein, disons que vous n'arrivez pas à écrire, qu'est-ce qui peut vous redonner l'inspiration, je ne sais pas, du vélo, écouter de la musique, comment vous faites pour vous rebooster, ça m'intéresse.
Qui commence ?
Mata.
Ok. moi, quand je bute, je sors. Je sors de
marcher,
chez moi.
Marcher.
Oui, je sors marcher. Souvent, je sors acheter des sneakers. Je sors acheter une connerie qui se mange. Et je marche et je regarde les gens. Oui, je mange un petit peu. Ouais. Je grignote, je mange. En tout cas, je sors de mon appartement. Comme ça, je prends un temps de recul et c'est arrivé dehors que tout d'un coup, mon cerveau, il va dire « Ah, mais attends, j'avais ça comme idée pour toi. Mais attends !» Parce qu'il est toujours comme ça,
le cerveau. Ah, quelquefois, vous écrivez dehors, alors ?
Oui, sur mon téléphone, en marchant. Mais parce que t'es devant l'ordinateur ou devant la feuille et ton cerveau, il fait « Non, j'ai pas envie. » L'inspiration, il dit « Non, j'ai pas envie, je suis pas prête. » Tu fais « Ok. » Tu sors et là, arrivé dehors, elle fait « Attends, me lâche pas, c'est bon. » Donc, je sors de mon
et
appart.
Et vous, Denis, alors ?
Je vais encore être d'accord.
Ah non, mais vous êtes mariés.
Non, on est mariés.
À la sortie, vous pour partir ensemble.
Mais c'est pas pour faire mon intéressant.
Une belle histoire d'amour qui commence ici, à Radio Libertaire.
En tout cas, je sors aussi, je m'aère la tête aussi. Mais... Et moi, je vais en forêt carrément. Je vais dans les bois. Et je marche.
Marions-les.
Je marche. Et là, ça, c'est en train de se vider, c'est en train de se calmer. Et je marche. Et pareil, je sors un téléphone.
Vous devriez faire une sortie en forêt.
Je note. Et c'est comme ça.
C'est comme ça que ça vient.
En sortant des murs. Et pourtant, j'habite un pavillon. Mais malgré ça, c'est en allant s'oxygéner, se retrouver là.
Alors, je vous remercie, Denis Scherrer, Mata Gabin, d'avoir accepté mon invitation. Vous nous avez fait réfléchir, vous nous avez fait rêver. Vraiment, rappeler les titres et vos spectacles, qu'on puisse venir vous applaudir. Rappeler
vos actualités. C'est simple, il reste 3 jeudis, les beaux jeudis, ce soir, 20h45, jeudi prochain, le 20, et celui d'après... Le 27, ça se passe au théâtre de l'île Saint-Louis, Quai d'Anjou, à Paris. Après, il y aura peut-être une reprise. Je suis en train de voir ce qui est les possibilités pour reprendre le spectacle, pour qu'il ne s'arrête pas déjà, puisqu'on en est à la 30e. Donc,
en tout,
c'est pas énorme. Voilà, et ça sera... alors d'abord, je joue à Annecy les 21, 22, 23, aux Têtes de l'Art, un théâtre qui s'appelle les Têtes de l'Art. Et puis après, je reprendrai à Paris, mais je ne sais pas encore quand. Voilà. Mais venez déjà là.
Mais bravo, on viendra. Mata, vous avez quelque chose à dire ?
Moi, j'ai pas encore d'actu tout de suite, mais par contre, j'invite les gens à me suivre sur les réseaux s'ils sont de cet acabit.
Quel réseau ?
Sur Instagram, parce que j'annonce ce que je fais et il y a un tournage dans l'air.
D'accord.
Qui se prépare.
Alors écoutez, c'était notre première émission de Un verre avec. Nous avons eu quelques problèmes techniques, j'espère que ça ne s'est pas trop perçu. En tout cas, nous étions heureux d'être là. On s'est sentis comme chez nous ici. Ouais, et on aimerait revenir. C'était Monica Youn au micro, avec la collaboration de Jackie Cooken à la technique, ainsi que Florence Jonas à la technique. Et bien sûr, notre chroniqueuse de choc, Mata Gabin, reviendra à chaque fois.
Avec plaisir.
Merci. À bientôt pour de nouvelles rencontres.
I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me.
Et Radio Libertaire 89.4, un verre avec. Nous écoutons. Talking a joke. I
Radio Libertaire 89.4.
Tout le pont Mirabeau, le la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent?